François de Beaulieu, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Et comment ça va?
Je vais très bien et je suis heureux d'être avec vous.
Oui.
Vous avez l'air d'avoir une forme exceptionnelle ce matin.
Oh non, mais comme toujours.
On va venir spécialement ce matin après une semaine de vacances.
Oui.
Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et sans plus attendre, je vous propose un rapide retour en arrière. Il y a 2 semaines, inspiré par ce que l'on appelle aujourd'hui donc les Panama Papers, vous savez, ce scandale de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale à une échelle jusqu'à présent encore inconnue, nous avions traité d'alternatives. D'alternatives, c'est-à-dire d'autres façons de penser la finance, de penser l'économie. Et c'est en France, avec la nouvelle économie fraternelle, que nous avions découvert l'une de ces alternatives. La semaine dernière, toujours inspiré par les Panama Papers, qui ont mis en évidence des individus, des corporations, mais aussi des individus qui essayent de gagner davantage d'argent et de façon tout à fait éhontée, creusant davantage donc le fossé avec les plus démunis. C'est aux Philippines que nous sommes allés en votre absence. Nous sommes allés aux Philippines découvrir l'association de Tony Meleto, une initiative qu'il a mise à jour il y a plusieurs années maintenant, qui s'appelle Gawad Kalinga, et qui donc vient en aide aux plus démunis, à ceux qui vivent dans les bidonvilles, en les faisant sortir des bidonvilles, en les aidant à construire leur propre maison, puis à aider d'autres à construire leur maison, donc en développant des valeurs importantes de solidarité, entre autres. Et à travers cette expérience, évidemment, c'est toute une dignité que ces gens-là restaurent. Alors, c'était la semaine dernière, et puis cette belle histoire de Gawad Kalinga a provoqué beaucoup de réactions sur Facebook. Beaucoup de réactions, principalement en Europe, en France, en Belgique et en Suisse. On m'a posé des questions, le lien qui a permis d'écouter en différé cette émission a été partagé des dizaines et des dizaines de fois. Des questions sont revenues. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ces belles histoires ne sont pas seulement là pour nous faire imaginer qu'autre chose est possible. Elles sont là aussi pour réveiller. Pour réveiller des gens qui sont comme paralysés parfois par cet amoncellement de scandales et de tristes nouvelles. Aujourd'hui, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde. C'est intéressé à des acteurs de la finance particulièrement influents, particulièrement pesants dans l'économie mondiale, des acteurs incontournables aujourd'hui. Il s'agit des fonds souverains. Alors, les fonds souverains, pour beaucoup d'entre vous, c'est sans doute très abstrait, peut-être même totalement inconnu. De quoi s'agit-il? Qui sont-ils? Que sont-ils? Les fonds souverains, ce sont en fait des fonds d'État, des fonds qui gèrent les deniers publics. Pour vous donner un exemple, en Ontario, le plus connu est évidemment le Teachers Fund, donc le fonds de pension des professeurs. Donc en Ontario, ici au Québec, nous avons la Caisse des placements et de dépôts du Québec. Et puis dans d'autres pays, eh bien, ce sont des fonds qui ont été mis en place pour profiter de mannes exceptionnelles et peut-être pas éternelles, comme dans les pays du Golfe, où effectivement les revenus pétroliers ne seront peut-être pas toujours là. Et il s'agit donc de collecter ces fonds, de les faire travailler pour quelque part assurer l'avenir des générations futures. Alors voilà ce qu'ils sont. Mais ils gèrent des actifs extrêmement importants qui sont investis dans l'immobilier, dans des actions de compagnies publiques ou dans le capital d'entreprises privées. Et s'agissant d'argent public, il est légitime de s'interroger sur les choix de ces investissements. Est-ce que ce sont des investissements responsables? Et y a-t-il place pour une réelle éthique dans ce monde financier? Alors, la réponse, elle nous vient de Norvège, avec le premier fonds souverain au monde. Il gère plus d'un trillion de dollars, c'est-à-dire plus de 1000 milliards de dollars. Et pour vous donner une idée, une échelle, le Québec, avec la Caisse des placements et dépôts, donc, gère quant à lui à peu près 250 milliards.
Ah oui.
Alors, pour vous en parler, j'ai retenu un article qui est paru dans la Tribune du 18 avril 2016, donc c'est relativement récent, et que je vous propose donc de lire dès maintenant. Combien coûte l'éthique? En retirant totalement ses investissements dans l'industrie du tabac, le fonds de pension norvégien a renoncé à un juteux profit d'environ 2 milliards de dollars. Un choix éthique que tous les fonds de pension ne semblent pas être prêts à faire. L'éthique a donc un coût. En bannissant totalement le secteur du tabac de ses investissements en 2010, le fonds souverain de Norvège, qui est donc le plus important au monde, comme je viens de le dire, avec un peu plus de 1 000 milliards d'euros d'actifs en sous-gestion, avait prévenu qu'il n'avait pas pris en considération le pourcentage de l'activité que représente cette production. Ce retrait, aujourd'hui, il a un coût. Chiffré, on parle de 2 milliards de dollars en profits manqués, selon le Financial Times. Le journal financier britannique s'est basé pour son calcul sur des données qui sont disponibles sur le site du fonds lui-même, d'où un souci de grande transparence. Si le fonds norvégien reste aujourd'hui sur sa position, d'autres envisagent déjà de faire marche arrière, constate le Financial Times, et c'est le cas notamment du plus large fonds de pension publique américain, CalPERS, qui a en charge 290 milliards de dollars. Il doit du reste se réunir ces jours-ci, et sa décision va être d'investir ou de désinvestir dans l'industrie du tabac. Il aurait, paraît-il, déjà perdu près de 3 milliards de dollars en profits non touchés. Car si le tabac n'a rien d'un investissement éthique, il est par contre très profitable. Il y a un indice que l'on appelle le MSCI, qui, au 31 mars 2016, mettait en évidence ceci. Le MSCI prend en compte en fait les grandes et les moyennes capitalisations de 23 pays développés. Il a mis en évidence que l'indice donc du tabac a engendré des retours nets de 9,57% contre, pour la même période, l'indice global a mis en évidence une perte de 0,35%. Alors ça vous donne un petit peu l'échelle de profitabilité que représente cette industrie. Alors le fonds souverain norvégien a donc choisi de privilégier l'éthique à la rentabilité. L'un de ses responsables, que je cite, nous dit ceci. « Notre mission est de garantir de construire une richesse financière pour les générations futures. Un investissement responsable garantit la valeur de notre investissement. » Et il ajoute ceci. « Nous attendons des entreprises, dans lesquelles ils investissent, donc, nous attendons de ces entreprises qu'elles communiquent l'impact de leurs activités sur leur environnement et les facteurs qui pourraient avoir un effet sur leur rentabilité à long terme. » Plus récemment, le 14 avril en fait, le fonds de pension public norvégien a annoncé avoir banni 52 entreprises pour lesquelles le charbon génère plus de 30% des revenus ou de l'activité. Parmi ces entreprises, on pouvait notamment trouver Peabody Energy, qui est le numéro un de la production de charbon aux États-Unis. Alors, contrairement au tabac, le choix de désinvestir dans le charbon a toutefois du sens financièrement. L'indice qui traite de cette matière première et qui prend en compte donc les sociétés qui produisent ou qui font de l'exploration de charbon témoigne de la forte chute du prix des matières premières. Et sur un an, sa valeur a chuté de 16,36%. Alors voilà une histoire intéressante. Elle nous dit quoi ? Elle nous dit en substance que on peut faire de la finance et on peut se préoccuper d'éthique. Et quand cette belle histoire nous vient d'un fonds souverain, qui s'avère être le premier fonds souverain au monde, on peut s'interroger sur, effectivement, l'impact que peuvent avoir ce genre de décisions. Eh bien, quand un fonds souverain comme celui de Norvège a le courage politique et social de prendre ce genre de décision, on peut se dire que c'est quelque part à la portée de tous. Et si je mets maintenant en perspective, comme je le disais tout à l'heure, d'autres fonds souverains, d'autres fonds d'État, j'évoquais évidemment le Québec parce que ça nous concerne toutes et tous. Il s'agit de deniers publics, je le rappelle. Le Québec est à la 10e place des fonds souverains dans le monde. Ce n'est pas un petit joueur. Il a donc, comme je le précisais, à peu près 250 milliards de dollars d'actifs en gestion. Et dans un article du Journal de Montréal signé par Camille Bouchard, qui remonte à octobre 2015. Un certain nombre de questions ont été posées et j'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui sont concernés, évidemment, à se les poser. Il est légitime qu'en tant que Québécois, on s'interroge. Où sont les investissements donc, de la Caisse des placements et dépôts du Québec? Combien sont investis dans le charbon, dans le pétrole conventionnel, mais aussi le pétrole des sables bitumineux? Et cette transparence, elle est importante. Pourquoi? Ben peut-être pour nous éviter de reconduire l'expérience dramatique qu'on a connue en 2008 avec la crise financière, où, dois-je le rappeler, la Caisse des placements et dépôts du Québec a perdu 40 milliards de nos deniers
de nos
publics.
Deniers.
Alors, on ne peut souhaiter évidemment que des investissements d'avenir plus sûrs, plus profitables, et dans les énergies vertes en particulier. Le pétrole, qui est dans la croûte terrestre, aujourd'hui, on sait qu'il doit y rester. La COP21, cette grande messe environnementale de décembre dernier à Paris, l'a mise en évidence. Tous les États concernés qui vont mettre en application l'accord de Paris considèrent que l'objectif de décembre dernier n'est plus qu'un minima et qu'il faut aller au-delà de ça. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous. Il y a de belles histoires d'individus, mais il y a aussi des histoires exemplaires, comme celle de son souverain, le premier au monde, qui montre l'exemple.
Et ce qui est assez formidable, c'est que vous savez que ce matin, on en parle beaucoup dans les journaux de la Caisse de dépôt, parce que la Caisse de dépôt et de placement du Québec va s'investir et investir beaucoup, notamment dans le fameux train électrique là, dont on parle depuis quelque temps, le fameux SRL, là, que tantôt je cherchais, je ne me souvenais plus à quoi correspondait cet acronyme-là. Et là, vous nous dites qu'il dispose d'à peu près 255 milliards à peu près de fonds, c'est ça?
Absolument, en gestion sous-actif.
Oui. Bien là, ils vont, voyez-vous, ils vont en investir 3 milliards dans ce projet qui est évalué à 5,5 milliards de dollars.
Alors, c'est une bonne nouvelle. Peut-être juste pour compléter, le fonds de pension Teachers Funds en Ontario, transparence complète sur ses investissements. Ici,